Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Maintenant, place à l'actualité. Des dirigeants latino-américains ont soutenu Alberto Fernández et ont appelé à approfondir l'unité régionale lors d'une réunion virtuelle coordonnée par l'ancien président paraguayen Fernando Lugo, qui a appelé à garantir la pleine validité d'une démocratie complète et l'approfondissement de l'intégration dans la région. La réunion virtuelle a eu lieu lundi dernier et les anciens présidents Dilma Rousseff, Brésil, Evo Morales, Bolivie, Rafael Correa, Équateur, Ernesto Samper, Colombie et José Manuel Zelaya, Honduras, sont intervenus, en plus de Fernández, qui a déclaré qu'il n'avait jamais participé au groupe de Lima ni assisté à une réunion de cette organisation, et que le pays n'avait non plus signé aucun document de ce bloc. De la même manière, je peux souligner notre respect personnel et politique pour la trajectoire démocratique de Michel Bachelet et son engagement en faveur des droits de l'homme, a ajouté le président argentin à propos de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et ancienne présidente chilienne. Alberto Fernández a également ratifié son engagement à approfondir les actions qui améliorent la qualité de vie des peuples d'Amérique latine. Et il a plaidé pour garantir la pleine validité de la démocratie et l'approfondissement de l'intégration dans la région face aux défis d'un monde déjà convulsé et en état d'exception, une situation qui s'est aggravée en 2020 en raison de la pandémie. L'Argentine devient le premier pays à autoriser le blé OGM, organisme génétiquement modifié, pourtant controversé. L'Argentine a donné son accord pour la commercialisation d'un blé résistant à la sécheresse. Il faut toutefois attendre que le quatrième producteur mondial de cette céréale obtienne le feu vert du Brésil, son principal client. Les consommateurs, méfiants, suivront-ils? C'est la question que se pose ce reportage de France 24.
Nous allons parler de l'Argentine, qui devient le premier pays producteur au monde de blé transgénique.
Oui, quatrième exportateur mondial de blé, l'Argentine a donné son feu vert à la distribution de ce blé, dont la particularité d'être tolérant à la sécheresse, mais les OGM, on le sait, font toujours polémique. Coralie Hennel.
Un blé génétiquement modifié pour résister à la sécheresse. Une avancée scientifique pour l'Argentine, qui vient de donner son feu vert à la distribution de cette céréale. Cette variété a été développée par la société argentine BioCeres en collaboration avec l'Université nationale du littoral. A noter que la société française Florimond Desprez participe également au développement de ce blé. D'après les essais réalisés sur des champs, cet OGM permettrait d'améliorer le rendement de 20% en moyenne en cas de sécheresse. Mais pour être commercialisé en Argentine, cette variété doit être approuvée par le Brésil, principal marché du blé argentin. En 2019, l'Argentine a exporté 11,3 millions de tonnes de blé, dont 45% vers le Brésil. Les autres principaux importateurs sont l'Indonésie, le Chili et le Kenya. Pour le moment, l'Argentine est le seul pays à approuver l'utilisation de blé transgénique, car les consommateurs se méfient fortement de ce type de produit.
En fin de compte, au-delà des autorisations, le succès de cette démarche dépendra du consommateur, de son niveau d'acceptation, de quelque chose qu'aucun gouvernement ne peut garantir.
Pour le cabinet Agritel, une société française experte en stratégie agricole, l'Argentine prend le risque de se heurter au rejet des consommateurs et donc de perdre des parts de marché.
C'est en 1996 que la technologie OGM débarquait en Argentine. Le succès fut fulgurant sur les cultures du soja, une protéine végétale très demandée en Europe et en Chine pour l'alimentation du bétail. Outre le boom économique que cela a produit, il y a eu aussi une transformation sociale profonde des campagnes et un impact écologique négatif. En 2008, France 24 diffusait le reportage suivant.
Modifier le génome du soja a un avantage. Il le rend résistant à un herbicide total qui s'appelle le glyphosate. Nous appliquons cet herbicide qui fait disparaître toutes les mauvaises herbes et qui épargne seulement le soja.
Le soja transgénique recouvre désormais 16 millions d'hectares. Son succès, il le doit à sa grande simplicité. Il suffit de semer directement sans labourer et d'épandre l'herbicide miracle.
Comme il n'y a plus besoin de retourner les sols, on utilise moins de machines et l'agriculteur a pu ainsi se dégager du temps, ce qui lui a permis de cultiver de plus grandes surfaces.
Une révolution qui provoque la disparition des petits producteurs. Avec le boom du soja transgénique, sont apparues des propriétés de 100 000 hectares et plus.
Ces entreprises louent les terres, louent les machines. Ce n'est plus de l'agriculture, c'est de la gestion.
Les OGM ont été conçus pour une agriculture industrialisée. Osvaldo, avec ses 110 hectares, a vu plusieurs de ses récoltes détruites par les épandages d'herbicides qui se font par avion et qui ont atterri sur ses champs.
C'est vraiment très grave pour nous. Cela nous affecte tous. C'est un problème pour la santé aussi, parce qu'à chaque fois, c'est du poison qu'on nous envoie sur la tête.
Plus grave, le soja conquiert de nouvelles terres. Dans le nord de l'Argentine, la forêt primaire disparaît au rythme de 40 terrains de football par jour. 300 000 hectares sont défrichés chaque année. D'ici quelques mois, ces terres produiront du soja. Dès la première récolte, le propriétaire aura récupéré sa mise, achat du terrain compris.
C'est un désastre, un crime absolu. Avec la déforestation, tous les animaux sauvages sont en train de mourir. Toute la faune est en train de disparaître.
Greenpeace dénonce cette opération de déforestation à grande échelle. L'organisation écologiste estime qu'elle menace sérieusement la biodiversité. Elle réclame un moratoire d'un an pour préserver certaines zones de la progression du soja, un combat difficile en Argentine.
Pour nous, les défenseurs de l'environnement, c'est très difficile d'obtenir des résultats concrets quand on s'attaque à la production d'OGM. Pour une raison simple, le soja génétiquement modifié représente 54% de la production agricole.
L'Argentine est un pays financièrement dépendant du soja. Pour l'État, il ne s'agit pas moins que de sa principale ressource. Il est donc hors de question de freiner le développement des OGM, mais au contraire de les encourager.
L'Argentine, comme il a été dit, figure parmi les grands pays exportateurs de soja dans le monde. Une manne financière, mais aussi un enjeu de santé publique important. La majorité des cultures est traitée au glyphosate, un pesticide que l'OMS a classé en 2015 dans la catégorie des cancérogènes probables.
Nous vous emmenons aujourd'hui en Argentine. En 20 ans, le pays est devenu le troisième exportateur mondial de soja. Un soja génétiquement modifié. L'immense majorité de ces cultures est traitée au glyphosate, principal ingrédient du célèbre désherbant Roundup de Monsanto. Ce pesticide, l'Organisation mondiale de la santé, vient de le classer dans la catégorie des cancérigènes probables. Les Argentins, qui vivent proche des terres cultivées, ont constaté ces effets il y a bien longtemps, vous allez le voir. Regardez ce reportage signé Mathilde Guillaume et Julien Ferrat.
Province de Córdoba, jadis terre d'élevage du célèbre bœuf argentin, aujourd'hui royaume du soja transgénique et de son indispensable pendant, le glyphosate. Ce puissant herbicide brûle tout, sauf le super soja, génétiquement modifié pour lui résister. Le petit village d'Ituzaingó a vu arriver ce duo il y a 15 ans, juste aux portes de ses maisons.
Les enfants couraient derrière l'avionnette d'épandage. Pour eux, c'était un jeu. En plus, on mangeait le soja glané après la récolte. Il était servi à la cantine de l'école, au catéchisme. Le soja était censé nous sauver.
Très vite, elles ont déchanté. Les cas de cancer, leucémie et malformation se sont multipliés chez les habitants en bordure des champs.
On a demandé au ministère de la Santé de nous envoyer des médecins pour vérifier les données que nous avions collectées. Et là, on s'est rendu compte que c'était encore plus grave que ce que l'on pensait, qu'il y avait encore plus de cas que ce qu'on avait relevé.
À force de lutte, ces mères sont parvenues à imposer que l'épandage s'arrête à 1500 mètres du village. Elles ont été les premières à faire reculer le tout-puissant soja.
Même s'ils ne sèment plus, d'autres cas continuent de se déclarer. Il y a toujours plus de cas de cancer, des enfants avec des malformations. Qui va réparer ça? Personne. Moi, mon fils, je l'ai déjà perdu.
Voilà. Georgina vivait à quelques mètres des champs de soja transgénique quand elle a accouché de Matteo, il y a 9 ans.
Il a une malformation des intestins, une autre des reins. Au lieu d'en avoir deux, il en a un seul en forme de fer à cheval. Encore une malformation des vertèbres proche du sacrum qui fait qu'il n'a pas de sensibilité dans cette région. Ah, et aussi une malformation de la vessie.
Matteo est incontinent et rien n'est simple ou facile dans sa vie quotidienne, faite d'examens médicaux et de traitements invasifs. Mais réussir à prouver le lien de cause à effet entre l'épandage de glyphosate et toutes ces maladies est très difficile. Direction la clinique Carafa, nous rencontrons le docteur Avila Vasquez, qui depuis 10 ans est le témoin direct de nombreuses malformations de bébés.
Comment va-t-il ? C'est un des bébés qui naissent avec des problèmes cardiaques, des malformations, syndrome de Down, et qui viennent des zones proches des champs de soja. À l'époque de l'épandage, en septembre-octobre, les femmes qui tombent enceintes ont des grands risques d'accoucher de ce genre de bébé.
Avec son équipe, il vient de présenter un recensement médical de Monte Maïs, un petit village encerclé par les champs de soja transgénique. Les cas de fausses couches, cancer et lupus y sont 3 fois plus nombreux que la moyenne nationale. Des chiffres effrayants qui risquent cependant de rester lettre morte.
Nous, on se bat depuis une position éthique, de droits de l'homme, contre un système économique qui génère une très haute rentabilité, mais qui génère aussi beaucoup de maladies.
Car le soja transgénique est le moteur de l'économie argentine. C'est lui qui a permis au pays de se relever après la terrible crise de 2001. Aujourd'hui, le roi soja règne sur plus de la moitié des terres cultivables. Il engendre des profits si considérables que les producteurs se refusent à écouter les arguments sanitaires de ses opposants.
Ce sont des bombes médiatiques pour semer la panique, mais ils n'apportent aucun argument technologique ou médical ou scientifique pour les supporter. Ils n'apportent aucune alternative.
L'OMS vient pourtant de valider bien des études épidémiologiques en reconnaissant que le glyphosate était probablement cancérigène. Interrogé sur le sujet, l'aviateur José Luis Suárez, spécialiste de l'épandage, utilise l'argument du moins pire.
Moi, je suis de l'époque du 2,4,5-T qu'on utilisait comme herbicide. C'est le célèbre agent orange que les États-Unis ont utilisé pour défolier au Vietnam. On l'a utilisé pendant très longtemps ici. Alors, quand le glyphosate est sorti, on était ravis. Enfin, on pouvait travailler avec un produit non toxique.
Une manière de voir les choses que ne partagent pas les Argentins des villages affectés. Quant au gouvernement, il touche la manne du soja et refuse de s'exprimer sur les possibles conséquences sanitaires. En Argentine, l'or vert continue chaque année de gagner du terrain.
Et pour aller plus loin sur ce glyphosate, ce produit dont il est question dans ce reportage, je suis avec Marina Berge. Bonjour Marina.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste santé et environnement. Marina, on l'a vu dans ce reportage tourné en Argentine, hein, les conséquences pour les populations sont terribles. Celles qui vivent, bien sûr, à côté des terres de soja génétiquement modifiées. Qu'est-ce que l'on sait de ce produit, le glyphosate ?
Alors écoutez, on sait à peu près tout de ce produit, il n'y a aucun mystère là-dessous, c'est un des principaux herbicides industriels, un désherbant total, c'est un désherbant qui fait pas de quartier, il entre dans la composition d'un autre produit, vous allez le voir, je pense que celui-là, vous le connaissez, un produit beaucoup plus connu, c'est le Roundup, c'est l'herbicide dont la production est la plus importante en volume dans le monde, il est utilisé ce glyphosate dans 750 produits, soit pour l'agriculture, la foresterie, les usages urbains, même les usages domestiques. Je serais prête à parier qu'il est en vente dans la jardinerie à côté de chez vous. Les villes l'utilisent aussi pour se débarrasser des mauvaises herbes dans les rues, dans les parcs, dans les jardins. Alors ce produit, il est commercialisé, on l'a vu dans le reportage, par le géant américain des OGM, Monsanto, tout simplement parce que les OGM sont résistants au glyphosate, vous voyez le lien de cause à effet. Ça veut dire tout simplement qu'un agriculteur OGM, eh bien, il peut tuer ces mauvaises herbes avec ce Roundup, ce glyphosate, sans tuer ses cultures.
Alors, on a l'impression dans vos explications que c'est quand même assez dangereux, mais est-ce que cette dangerosité est avérée aujourd'hui ?
Alors là, on est sur un dossier, sur une question ultra sensible et ultra polémique. Le Centre international de recherche sur le cancer, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un organisme qui dépend de l'OMS, vient de le classer le mois dernier dans la catégorie cancérigène probable. Le niveau juste au-dessus, c'est cancérigène certain. Donc pour l'instant, on est encore dans la mesure. Ça veut dire quoi ? Que le côté cancérigène, il a été prouvé sur les animaux, mais pas encore chez l'homme. Pour les animaux, en tout cas, ont été constatés des dommages chromosomiques, un risque accru de cancer de la peau, de cancer du tube rénal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opinions de ce centre, le Centre international de recherche sur le cancer, font référence, elles bénéficient du plus haut niveau de reconnaissance dans la communauté scientifique, mais elles ne sont que informatives, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le cirque dit ça que les États vont être obligés d'interdire le glyphosate. Mais on l'a compris, c'est Monsanto qui commercialise ça. Donc les intérêts que le cirque vient de bousculer sont absolument colossaux. La réponse de Monsanto ne s'est pas fait attendre, bien sûr. Nous sommes indignés par cette évaluation. Les plus hautes autorités dans le monde ont conclu que les utilisations autorisées du glyphosate sont sans risque pour la santé humaine. Alors, il y a une sorte le calendrier se bouscule un peu en ce moment sur cette question parce que le glyphosate est en cours de réévaluation au niveau européen, comme toutes les molécules tous les 10 ans. En France, Ségolène Royal, elle, a déjà pris parti. Elle a demandé que le glyphosate ne soit plus en vente libre pour le grand public. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pays européens qui ont pris les devants, qui l'ont déjà interdit. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la ville de Chicago aux États-Unis, Paris en France, l'Ombanie et à New York, il y a un groupe d'écologistes qui a porté plainte, lui, qui met de l'affaire devant les tribunaux, porté plainte contre l'Agence de protection de l'environnement américain.
Beaucoup de pays donc se sentent concernés. L'affaire est prise très au sérieux également en Colombie.
Oui, tout à fait. En Colombie, l'affaire intéresse au plus haut point les autorités. Pourquoi ? Eh bien parce que le pays pulvérise massivement du glyphosate sur les champs de coca pour détruire cette culture dans le cadre de sa lutte anti-drogue. Vous savez que la coca, c'est la plante qui sert à fabriquer la cocaïne. Eh bien, en 20 ans, écoutez bien ce chiffre, on estime que 1,6 million d'hectares de terres colombiennes ont été aspergés de glyphosate avec les conséquences éventuelles sur la santé des Colombiens. Et au sein même du gouvernement colombien, on n'est pas du tout d'accord. Le ministre de la Santé a demandé qu'on arrête de pulvériser les fumigations par mesure de précaution. Le ministre de la Défense répond non, tout simplement pour privilégier la lutte anti-drogue. Du coup, c'est peut-être le président lui-même qui va devoir trancher, Juan Manuel Santos. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier pourrait prendre une tournure diplomatique parce que ce sont les États-Unis qui financent cette lutte anti-drogue en Colombie. Les avions, les pilotes, les États-Unis pour lesquels le Roundup, c'est la pierre angulaire de la lutte contre la drogue, en tout cas en Colombie. Peut-être que le président colombien pourrait même botter en touche et la décision pourrait être prise par une autre autorité, le Conseil national des stupéfiants. Affaire à suivre.
La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme a estimé que les OGM suscitent beaucoup de questions sur la biodiversité, la santé, l'environnement et plus globalement sur la privatisation du vivant. Trois experts donnent leur opinion. Le généticien Pierre-Henri Gouillon, l'agronome Marc Dufumier et l'écologiste Yvon Le Mao.
L'idéal pour l'industrie agricole, ça serait que les êtres vivants ne soient pas vivants. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas faire des descendants de manière à ce que les agriculteurs rachètent chaque année toutes leurs semences, les produits qui vont avec.
Dans l'organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant dans lequel on a souvent introduit un gène d'une autre espèce par la voie de ce qu'on appelle la transgénèse. Les nouveaux OGM, c'est des changements un petit peu dans la technique. C'est une action qui est souvent beaucoup plus ciblée sur telle partie de l'ADN.
Là où les OGM vont commencer à poser un problème, c'est quand on les cultive dans des champs. C'est-à-dire qu'au moment où les gènes peuvent s'échapper des champs et vont s'échapper des champs. Le brevet sur les gènes permet à l'entreprise qui a ce brevet de s'approprier la plante, ses descendants par voie femelle, ses descendants par voie mâle, y compris donc les graines des voisins. En gros, les entreprises qui brevettent des gènes et qui mettent ça dans des génomes de plantes cultivées sont en train de s'approprier toutes les ressources génétiques de la planète. Et ils ne les approprient pas pour les garder, ils s'approprient pour les détruire de façon à ne vendre que leur variété à eux. Et ça, c'est super dangereux.
À partir du moment où on réduit la biodiversité, qui est la principale source de protection contre les pathologies, contre les ravageurs, à partir de ce moment-là, on fragilise notre production agricole et le risque est considérable.
On a besoin de diversité dans les plantes cultivées et ce qu'on fait actuellement, en général en agriculture industrielle et en particulier grâce aux OGM et à tout ce qui est breveté, c'est-à-dire OGM anciens, nouveaux, cachés, etc. Tant que c'est breveté, c'est ennemi de la biodiversité.